BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
Il est 10h sur BFM Business. Bienvenue à toutes et à tous. C'est BFM Patrimoine, l'émission 100% placement. On est effectivement ensemble jusqu'à midi avec nos meilleurs experts pour vous éclairer dans vos choix d'investissement. Dans cette première heure, on va parler d'immobilier comme toujours et de la nue propriété aujourd'hui. Un marché en plein essor, nous dira notre invité, le patron de Monetivia tout à l'heure. Comme toujours, on vous donnera des idées de placement. Et puis François Meunier d'Investir nous dira pourquoi la bourse entre en mode pause. Dans la deuxième heure de cette émission, ce sera regard croisé pour passer en revue toute l'actualité des marchés, de l'économie aussi, avec aujourd'hui Sandrine Covin d'OTA Capital et Daniel Gérino de Carlton Sélection. Et puis on répondra comme toujours à toutes vos questions comme vous en avez l'habitude vers la fin de cette émission. Dans un instant, on fait le point sur la séance à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui gagne 0,43% ce matin. Mais avant cela, c'est l'essentiel de l'Info Éco avec Stéphanie Collo.
BFM Business, l'Info Éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, la croissance devrait bien atteindre 0,2% au deuxième trimestre, comme au premier, confirmation de l'INSEE ce matin. Du côté de l'emploi salarié, il y a eu 42 000 créations nettes dans le privé sur les trois premiers mois de l'année, soit une progression de 0,2%. Il s'agit du neuvième trimestre consécutif de hausse. En revanche, la production industrielle repart à la baisse en mars. Elle recule de 1,1% après un rebond en février, plombé par des recul dans plusieurs secteurs, de la pharmacie à l'énergie, en passant par le BTP. Et en Allemagne aussi, les commandes industrielles s'effondrent. Elles reculent de 10,7% en mars, du jamais vu depuis le Covid, nourrissant les craintes de récession. Le secteur automobile est particulièrement concerné. Bruno Le Maire reçoit le gouverneur de la Banque de France, aujourd'hui à Bercy, au menu des discussions. La question de l'assouplissement des règles qui encadrent les crédits immobiliers. Le ministre de l'Économie souhaite assouplir le seuil de 20% des crédits qui peuvent bénéficier de dérogations aux règles selon lesquelles les banques ne peuvent prêter qu'à condition que le taux d'effort ne dépasse pas 35%. Les candidats à la présidence du MEDEF n'ont plus que quelques heures pour réunir les 150 parrainages afin de soumettre leur candidature. Quatre candidats se sont pour l'instant déclarés. Patrick Martin, actuel bras droit de Geoffroy Roux-de-Bézieux, Dominique Carlac, la porte-parole du MEDEF, l'entrepreneur Guillaume Kérou et le président délégué de la Fédération française de la sécurité, Pierre Brajeux. Le vote final aura lieu le 6 juillet. Et puis encore beaucoup de résultats d'entreprises ce matin pour le premier trimestre. Thales publie un chiffre d'affaires en hausse de 9,4% à 4 milliards d'euros, porté par ses activités, notamment dans l'aéronautique civile et la biométrie. Le groupe confirme ses objectifs. Air France bat les attentes au premier trimestre. La compagnie aérienne affiche un chiffre d'affaires en hausse de 42% sur un an à plus de 6 milliards d'euros, porté par le rebond de la demande mondiale pour les voyages et d'un nombre important de ventes de billets d'avion pour la période estivale. Le groupe réduit sa perte à 344 millions d'euros. Et puis de son côté, Adidas affiche une perte de 39 millions d'euros pénalisée par l'arrêt des baskets Yeezy du rappeur américain Kanye West. Sur l'année, l'équipementier sportif prévoit une perte de 700 millions. Les ventes dépassent les 5 milliards d'euros sur un an. C'est mieux que prévu, Vincent.
Merci beaucoup Stéphanie Collo. On vous retrouve tout à l'heure à 11h pour un nouveau point sur l'actualité économique. Comme promis, on file à Euronext pour prendre des nouvelles de la bourse. Euronext où nous attend Aude Kersulek. Bonjour Aude. Bon, on se reprend un petit peu ce matin, plus 0,41%. Bon, ça va être difficile quand même d'avoir une semaine globalement positive, hein, puisqu'elle avait mal commencé cette semaine mardi.
Oui, c'est ça, même si elle a été courte, on n'a pas eu des séances très positives. Alors, pour le moment, le rebond, il est là. Il est un petit peu moins prononcé qu'à l'ouverture, hein, plus 0,4%. On verra si ça tient au cours de la journée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'emploi américain qui nous attend en début d'après-midi. Ça pourrait faire bouger Wall Street et nous aussi par ricochet. On a l'Eurostoxx qui monte aussi de 0,1%. Maintenant, seulement 0,3% pour le DAX à Francfort après la baisse baisse d'hier. On a certaines valeurs qui se reprennent tout de même, comme Renault ou Publicis, qui sont en tête de ce CAC 40. Renault qui gagne 3% à 32,38 €, ou Publicis 2,6% à 70 €. On est plutôt dans une journée où les publications sont bien arbitrées, hein. Il faut le dire quand même. Thales, pour le moment, gagne un petit peu plus de 1%, alors que l'entreprise a publié un chiffre d'affaires en hausse de 9% en variation organique, et a surtout confirmé ses objectifs financiers pour l'année. Peu de baisse pour le moment. On retrouve, cela dit, les mêmes baisses qu'hier. Hein. Téléperformance qui repère 1%. La valeur avait été dégradée hier par certains analystes et avait pas mal chuté. Sur le SBF, dans la suite d'ailleurs de leur grande variation d'hier, on retrouve Valneva. Alors Valneva à la hausse, hein, qui gagne 4%, 5,46 €. Casino Guichard encore à la baisse. Et puis, encore des publications. Arkema, le résultat net est en baisse, hein, par rapport à l'an dernier, notamment parce que la demande pour la construction est faible. On a pour l'instant une valeur qui gagne quelques 0,3%. Et puis aussi du côté des baisses, Air France, moins 3,4% sur la valeur en ce moment. Alors Air France qui a publié une perte nette de 340 millions d'euros. Alors dans le monde des compagnies aériennes, c'est assez habituel, hein, en ce moment. Et c'est même mieux qu'anticipé pour cette perte. Perte nette, mais c'est la perte d'exploitation qui est en revanche moins bien que ce que pensaient les analystes. Notamment du côté de la filiale low cost Transavia, qui fait moins bien que prévu et qui n'a pas été si rentable que ça à cause des grèves dans le contrôle aérien, des pénuries de personnel du côté des Pays-Bas et d'avions cloués au sol. On perd donc 3,4% sur Air France. Mais si on regarde une autre compagnie qui a publié ce matin du côté de Londres, IAG, eh bien là, la perte nette est réduite par 9. Le résultat d'exploitation est même maintenant positif et c'est une hausse de 2,4% sur le marché londonien. Et puis encore une autre valeur européenne qui a la faveur des analystes ce matin. C'est Adidas qui gagne 5%, plus de 5,2%. Les résultats sont meilleurs que prévu pour le premier trimestre, malgré ce qui s'est passé sur l'affaire des Yeezy, malgré les ventes en baisse de 1% par rapport à l'année dernière à la même période. Mais c'est le bénéfice d'exploitation qui est, lui, en hausse, plus élevé que prévu, 60 millions au lieu de 15 millions. Et après, il y a eu une perte nette pour le trimestre. Mais en tout cas, c'est ce résultat d'exploitation que regardent les investisseurs, plus 5,4%. Pour Adidas. Après les deux réunions de banque centrale cette semaine, on regarde ce qui se passe sur le marché obligataire qui n'a pas tellement bougé, notamment en ce qui concerne le 10 ans français. On est à 2,84% et le 10 ans américain qui est à 3,39%. Donc ça se calme un peu sur ce marché obligataire, alors que l'euro est lui remonté au-delà des 1,10 $, 1,10,29 $ pour le moment. Et le CAC 40 donc en rebond ce matin, 0,4%, 7372 points.
Merci beaucoup Aude Kersulek. On vous retrouve tout à l'heure, peu après 11h, pour un nouveau point sur la séance à la Bourse de Paris.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépites et Pipeaux.
Et cette séquence Pépites et Pipeaux, aujourd'hui c'est avec Bassel Chougari qui est en ligne avec nous. Bonjour Bassel.
Bonjour.
Vous êtes gérant action internationale chez Montpensier Finance. Merci d'être avec nous. Votre pépite, c'est une valeur norvégienne, Nel, dans les énergies renouvelables, c'est bien ça?
Exactement. Alors, Nel est une entreprise norvégienne qui est spécialisée dans les équipements de production et de stockage d'hydrogène vert. C'est un des leaders des marchés et ses solutions sont très reconnues, notamment pour tout ce qui est production, stockage, mais également distribution. C'est une valeur qui est présente dans notre fonds M-Climate Solutions, qui est un fonds dédié aux leaders de la transition climatique, qui sont les entreprises qui apportent des solutions pour aider le reste du monde à se décarboner. Alors, quel est l'attrait de l'hydrogène vert ? C'est une source d'énergie qui va être polyvalente, qui peut être stockée ou utilisée dans plusieurs applications et qui offre une flexibilité qui va être accrue par rapport à d'autres sources d'énergie renouvelable. L'hydrogène vert va notamment permettre de décarboner des industries qui sont fortement émettrices, comme la sidérurgie ou les transports. D'un point de vue d'innovation, Nel, c'est un portefeuille parmi les plus larges en termes de solutions et notamment l'électrolyse de l'eau à haute pression qui permet une production plus efficace et plus rentable de l'hydrogène. d'un point de vue plus financier et boursier, la publication des résultats récentes a été très positive, puisque les résultats de l'entreprise étaient plus de 10% supérieurs au consensus, et on observe un carnet de commandes qui, pour 2024, est déjà équivalent à celui de 2023, ce qui est assez positif. D'un point de vue plus bilanciel, l'entreprise a récemment réalisé une augmentation de capital, ce qui lui a permis d'être bien capitalisée aujourd'hui, et donc d'ouvrir une usine qui a été annoncée il y a 2 jours dans le Michigan, où l'entreprise va embaucher plus de 800 salariés et ce qui va lui permettre de capitaliser sur le plan Biden ou l'IRA. Elle a également une base de production européenne qui va lui permettre de capitaliser sur les plans hydrogène européens. D'un point de vue de la valorisation, l'entreprise traite à 3,5 fois les ventes, ce qui peut paraître élevé, mais on parle d'une entreprise qui a des perspectives de croissance de chiffre d'affaires de 70% pour 2023 et de 60% pour 2024.
On est aux alentours de 14 couronnes norvégiennes pour l'action Nel, côté à Oslo. Et l'objectif de cours moyen des analystes est de 16 couronnes norvégiennes, un petit peu plus d'ailleurs, 16,10. Merci beaucoup, Bassel Chougari, d'avoir été avec nous ce matin dans ce rendez-vous Pépites et Pipo et de nous avoir parlé de Nel, votre pépite du jour.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
Le point macro ce matin avec Patrice Gautry. Bonjour Patrice.
Bonjour.
En duplex de Genève avec nous depuis Union Bancaire Privée, dont vous êtes le chef économiste. Alors au programme, c'est le jour d'après, hein, au programme aujourd'hui, c'est le jour d'après de la BCE. C'est l'emploi américain que l'on attend en tout début d'après-midi. L'impact aussi de la crise bancaire là-bas sur la politique monétaire de la Fed, qui a aussi relevé ses taux cette semaine. La Fed, on commence avec la BCE, qui ralentit la cadence, hein, plus 25 points de base seulement, c'était hier. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite ?
Alors, ça veut dire que pour la suite, il y aura d'autres 25 points de base. Donc, visiblement, la porte est restée ouverte et le discours a été clair de la part de Madame Lagarde, puisque, effectivement, les risques d'inflation, l'inflation au cœur, sont encore très, très présents. Et le communiqué de la BCE mentionne dès la première phrase que l'inflation est trop forte et ceci depuis trop longtemps. Donc, mois de juin, 25 points de base. Mois de juillet, probablement, encore 25 points de base. Et la question se posera au mois de septembre s'il faut, selon les résultats économiques et les résultats de l'inflation, avoir encore 25 points de base. Du côté des liquidités, la situation reste effectivement plutôt du côté des restrictions, puisque il n'y a pas eu d'effet d'annonce en fait positif en faveur de cette liquidité. On interrompt donc le processus de réinvestissement, ce qui veut dire en fait que le bilan de la Banque Centrale Européenne va baisser progressivement au fur et à mesure des tombées de coupons. Donc il n'y a plus de réinvestissement donc à partir du mois de juillet. Ça, c'était pas attendu aussitôt. Et puis il n'y a pas eu non plus en fait de mention comme quoi il y aurait de nouveaux TLTRO, puisqu'on voit que les banques vont refinancer, vont rembourser, pardon, de façon très importante, donc au mois de juin, les TLTRO qui avaient été lancés donc les années précédentes. Et là, ça veut dire que plus de taux, plus de contraintes sur la liquidité interbancaire et éventuellement la liquidité sur les marchés monétaires. Donc avant la pause attendue, peut-être à la fin du troisième trimestre de la Banque Centrale Européenne, on voit encore qu'il y a plusieurs étapes de resserrement de la politique monétaire pour la zone.
Ce serait une pause à combien ? Quel taux terminal pour la BCE ?
Alors 25 plus hein, éventuellement encore 25, ça nous amène au mieux à 3,75 avec
d'accord.
Une question sur le 4%. Mmh. Le 3,75 est très consensuel à ce moment où d'accord. Je vous parle et je suis dans le consensus.
Vous êtes dans le consensus, parce que hier vous ne l'étiez pas, je crois. Hein. Vous disiez 50 points de base. Mais bon, il y aura un rattrapage.
Effectivement, la lecture de l'inflation amène les risques à la hausse.
D'accord.
Et c'est pour ça qu'il faut, et on va l'avoir effectivement, et on va le voir sur la volatilité, certainement, sur le côté obligataire, même si là, pour l'instant, on a vu la dynamique des marchés obligataires était plutôt avec les problèmes américains qu'avec l'interprétation ou l'incorporation.
Les problèmes américains et la Fed qui, elle, ouvre la porte à une pause après sa hausse de 25 points de base de cette semaine. Le stress sur les banques régionales y est pour quelque chose dans cette pause à venir.
Alors, il y a un processus de désinflation, je dirais, marqué. Alors, il est encore pas complet aux États-Unis, puisque c'est le secteur des services et notamment, je dirais, le secteur des services aux ménages, des services liés au tourisme, qui sont encore effectivement dans une hausse relativement prononcée avec, on l'a vu, des hausses de salaire dans ces secteurs-là, qui sont prononcées. Il est évident qu'effectivement, on a un climat qui devient de plus en plus délétère sur les banques régionales américaines. Et cela, ça a pu participer effectivement dans un environnement de resserrement du crédit à, pour la Fed à adopter donc un environnement dans lequel elle est plutôt en pause. Et il faudrait de fortes justifications pour qu'elle reprenne ses hausses de taux. Donc oui, et on attend, oui, le secteur bancaire pèse. On attend encore d'autres décisions de la part du régulateur américain, le FDIC, pendant le week-end, parce qu'on a vu effectivement que chaque semaine, on a de la spéculation très très forte sur la fragilité des banques régionales. Et là, c'est au régulateur de donner, je dirais, le là et peut-être d'arrêter un petit peu ces tensions régulières, sachant que la conférence de presse de M. Powell, je suis désolé, mais n'a pas été convaincante sur ce sujet de la régulation et de la solidité des banques régionales américaines. Autant Mme Lagarde l'est plus en parlant de la solidité du secteur bancaire européen. Mmh.
Donc, c'est quoi? S'il sous-estime l'ampleur de la crise, vous diriez?
Je dirais qu'il ne dit pas tout et que malheureusement, on aimerait peut-être que la Banque centrale américaine soit plus présente en termes de communication et dans une politique déterminée à mettre fin soit à de la spéculation ou soit à des faiblesses structurelles du secteur bancaire américain pour les banques régionales et les banques de taille moyenne.
Le grand rendez-vous du jour, ce sont les chiffres des créations d'emplois, chiffres mensuels. Qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce que l'on regardera de très près?
Alors, 186 000 créations d'emplois sont attendues après 236 000 le mois passé. Mmh. Donc là, c'est le consensus. Faire attention parce qu'on a eu des enquêtes cette semaine, l'indice ADP, alors qui n'est pas directement la même enquête, mais qui donne un peu une tendance sur le marché de l'emploi. Et on voyait qu'il y avait encore pas mal de créations. On a eu effectivement l'emploi dans les services qui était important. Donc, ce qu'on va regarder, ce qui veut dire que sur les 185 000 créations, je dirais faire attention, on peut peut-être avoir un chiffre un peu supérieur. Ce que l'on regardera, c'est l'évolution dans les secteurs les plus cycliques, puisque est-ce que la situation de resserrement du crédit a un impact sur l'activité? Et les secteurs qu'on peut regarder, c'est le secteur de la construction. Alors, c'est pas ceux qui drainent le plus de créations d'emplois sur le mois, mais à côté de cela, on gardera les services, notamment les services aux entreprises, parce que là aussi, c'est un facteur cyclique et qui pourrait montrer, lui, s'il y a, en fait, véritable ralentissement de l'emploi ou pas.
Un petit mot pour finir, Patrice, de ce que l'on suivra la semaine prochaine, les grands rendez-vous.
Alors, on revient avec la Banque d'Angleterre. Donc là, 25 points de base, c'est un peu la même tonalité, certainement, que la Banque Centrale Européenne. Donc, 25 points de base et puis question ouverte sur la poursuite ou non de cela. Et puis, les prix américains, on revient avec la CPI. Et là, on attend peut-être une stabilité au niveau des prix cœur, 5,5%. Et peut-être des variations mensuelles un petit peu moins fortes, 0,4-0,5%, à la fois sur l'indice total comme sur l'indice cœur.
Merci beaucoup Patrice Gautry pour ce point macro. Patrice Gautry, chef économiste d'Union Bancaire Privée.
BFM Business, BFM Patrimoine, la vie immo.
Et on parle tout de suite immobilier avec notre invité Thomas Abinal. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous êtes directeur général, cofondateur de Monetivia. Avec vous, on va parler de nu propriété, un marché en plein essor depuis quelque temps. Qu'est-ce qui explique cet engouement de la part des investisseurs? Tout d'abord, un petit mot de Monetivia pour ceux qui ne vous connaissent pas encore.
Oui, vous aussi. Monetivia, c'est une société spécialisée en ingénierie immobilière. Hein. Notre expertise, c'est le démembrement de propriété.
Ah bah ça tombe très bien.
Ça tombe très bien. Et notre métier, en fait, consiste à mettre en relation, je dirais, des clients qui souhaitent vendre de la nue propriété et de l'autre côté, des investisseurs qui souhaitent investir dans la nue propriété.
Donc vous êtes vraiment aux premières loges là pour voir l'ampleur du phénomène. Hein. Dans l'éventail des solutions dans l'immobilier, il y a le démembrement et surtout la nue propriété qui séduit de plus en plus. Qu'en est-il concrètement du marché de la nue propriété aujourd'hui?
Alors moi je dirais que c'est un marché qui croît tranquillement mais sûrement.
Ouais.
Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une hausse de la demande à la fois côté vendeur et côté investisseur. Alors côté investisseur, je dirais que qu'est-ce qui drive un peu la demande? Tout simplement le fait que les investisseurs locatifs, les investisseurs en immobilier sont à la recherche d'alternatives à l'investissement locatif classique. À l'investissement locatif classique, Je dirais qu'il a quand même encaissé un certain nombre de coûts ces dernières années, avec l'encadrement des loyers, avec la hausse de la taxe foncière, avec plein de mesures qui le rendent peut-être moins attractif. Il y a eu aussi la limitation d'un certain nombre de dispositifs fiscaux. Mm-hmm. Et du coup, bah, vous le savez, derrière tout Français se cache un investisseur locatif, en tout cas un investisseur en immobilier. Et quand il se dit, bon, locatif, bof, il cherche autre chose. Et la vie propriété vient un peu combler ce besoin d'alternative.
Bon, on peut rappeler brièvement le principe de la nue propriété ?
Oui, alors
on parle régulièrement, mais enfin bon.
Peut-être dû commencer par là, mais très simplement, le Code civil prévoit la possibilité de scinder le droit de propriété en deux, hein, et en particulier d'un actif immobilier. Alors, il le scinde en deux de la façon suivante. D'un côté, il distingue le droit d'occuper le bien et de le mettre en location. Ça s'appelle l'usufruit. Mm-hmm. Hein. Et le reste, c'est la nue propriété. Et le reste, donc, la nue propriété, c'est en fait le fait d'être propriétaire d'un bien, mais de ne pas pouvoir ni l'habiter, ni percevoir de revenus locatifs. Mmh. Hein. Donc c'est évidemment, éminemment, je dirais, une position, par définition, qui peut intéresser des investisseurs, au sens où ils vont acheter un bien, ils ne vont pas pouvoir le mettre en location. Alors, en tout cas, ils ne vont pas pouvoir percevoir de revenus locatifs. Et donc, ils vont l'acheter moins cher.
Ah ouais.
Forcément, hein, l'investisseur, il est rationnel. Et donc là, ce va se créer, finalement, par capitalisation, une rentabilité. Et donc, voilà, il y a un certain nombre d'investisseurs qui se disent, bah, plutôt que d'acheter plein pot et de mettre un locataire, bah, typiquement, par exemple, sur 15 ans, je vais convenir avec la contrepartie que... J'achète, je n'ai pas le bien pendant 15 ans, et donc si le bien vaut 100, bah, par exemple, je vais l'acheter 65. Et là, j'achète 65, dans 15 ans, je vais le revendre 100 ou plus, si le marché a monté, et là, je me crée effectivement une rentabilité.
Et donc, on est censé... C'est des cotes habituelles, moins 30-35%.
Je vous ai donné une valeur moyenne sur 15 ans, après, effectivement, d'accord. Ça dépend des zones, ça dépend des rendements locatifs, mais en tout cas, ça illustre bien notamment le fait que c'est un investissement, je dirais, de long terme.
Hein, d'accord.
Parce qu'à la différence du locatif, et ça c'est pour le coup manifeste, vous n'allez pas pouvoir en sortir dans 2 ans ou dans 3 ans. En tout cas, ce n'est pas le but.
Hein. D'accord.
Donc il y a moins de liquidité.
Ok. Quels sont les avantages de la nue propriété par rapport à un investissement locatif plus classique, comme le LMNP ou le Pinel par exemple ?
Alors, vous achetez occupé, je reprends mon exemple, vous achetez aujourd'hui 65, quelque chose qui vaut 100 aujourd'hui. Mmh. Donc, premier intérêt, vous avez beaucoup de sécurité. Mmh. C'est-à-dire que les 35 de différence entre 65 et 100, en fait, c'est 15 ans...
Et de la marge.
Voilà, c'est 15 ans de revenus locatifs que vous percevez immédiatement sous forme de réduction de prix.
D'accord.
Grosse sécurité. Mmh. C'est comme si, locataire, vous payez tout de suite 15 ans de loyer. Mmh. Vous voyez bien que la problématique de...
Ah, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, ouais. Ouais.
Pour simplifier, c'est ça. Et du coup, effectivement, vous n'avez pas de problématique de locataire qui ne vous paye pas, déjà.
Ouais.
Hein. Et puis, évidemment, c'est ce que vous avez dit, vous avez de l'avance, vous avez une marge de sécurité. Mmh. C'est-à-dire que même si le marché devait baisser,
voilà.
Bah, vous avez un peu d'avance.
Hein. Ouais, vraiment qui baisse beaucoup.
Le deuxième intérêt, c'est je dirais quand même la facilité, la sérénité. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit à gérer. C'est un petit peu un investissement au coffre-fort.
Mm-hmm.
Voilà, vous mettez ça dans un tiroir, vous attendez 15 ans en fait. C'est un petit peu
d'accord.
Ça, c'est un peu ça l'idée.
Ouais.
Donc effectivement, pour des gens qui n'ont pas le temps à consacrer à des investissements, c'est quand même plus facile.
Mm-hmm. Hein.
Troisième intérêt, bah, on en parlait un petit peu en préalable, c'est la fiscalité. Puisque vous convertissez des revenus locatifs en réduction de prix, vous n'avez pas de fiscalité sur les revenus du foncier.
Absolument.
Donc vous gommez de la fiscalité. Mm-hmm. Et je vais même aller plus loin, ça boucle bien. Puisque à la fin des 15 ans, si vous revendez 100, puisque vous aviez acheté 65, le fisc ne va pas venir vous chercher sur la plus-value entre 65 et 100. C'est pas considéré
d'accord.
comme plus
d'accord.
value.
Ah oui, très bien.
Donc il y a quand même une fiscalité qui n'est pas... c'est pas un avantage fiscal, mais il y a une fiscalité qui est assez douce, qui est assez intéressante. Et puis, dernier point, moi, auquel je tiens beaucoup quand je parle de la propriété, c'est l'effet de levier. Parce que, on l'a vu dans mon exemple, j'achète à 65 un bien qui vaut 100. Si le marché bouge et dans 15 ans, on passe de 100 à 120, je vais capter, moi, investisseur, 100% de l'augmentation du marché, alors que je n'aurais pas mis sur la table au départ 100% de la somme, donc
d'accord.
De la valeur du bien. Donc ça, c'est un effet de levier. Ça vient évidemment booster la rentabilité.
Y a une corrélation entre l'intérêt pour la nue propriété et le besoin des seniors de monétiser leur patrimoine immobilier. Expliquez-nous un petit peu. Et ça,
alors,
ça prend dessus sur le viager traditionnel ?
Alors, il y a un petit peu de questions là, mais effectivement, pour expliquer le marché, bah, effectivement, si vous avez une hausse côté investisseur, vous avez aussi une hausse un accroissement de l'intérêt côté vendeur. Parce
voilà.
qu'effectivement, vous avez de l'autre côté de plus en plus de propriétaires immobiliers.
Voilà, parlons des vendeurs là, parce que
voilà, qui peuvent être intéressés.
Des acheteurs depuis le début.
Voilà, qui peuvent être intéressés par, en réalité, rendre plus liquide leur patrimoine. Voilà. Donc ils veulent rester dans le bien, mmh. ou ils veulent continuer à en percevoir les revenus locatifs, mais néanmoins, ils ont envie ou ils ont besoin de faire remonter du cash. Et donc, ils vont vendre les murs, en fait. C'est ça, ce qu'ils vont en vendre dans la nue propriété. Et ça, effectivement, ça intéresse de plus en plus de gens, je dirais, seniors au sens large du terme, on va dire les plus de 50, les plus de 60 ans, parce qu'il y a différentes formules de vente en nue propriété. Et ça intéresse notamment un certain nombre de seniors, alors là, plus âgés, qui ont vocation à vouloir rester chez eux à vie, pour ce qui est de leur résidence principale, notamment.
Et là, ils n'ont pas d'héritier ?
Alors, ils ont des héritiers, si, puisqu'en fait, en pratique, vous avez 80% des seniors qui ont des enfants, alors. Des grands-enfants, évidemment, mais c'est quand même des héritiers directs. Et effectivement, ils considèrent que le viager, très souvent, ne répond pas à leurs besoins.
Le viager, c'est plus quand on n'a pas d'héritier.
Exactement. Ouais, le viager, c'est très bien pour les 10-15% qui n'ont pas d'enfants.
Voilà.
Pourquoi ? Bah parce que vous prenez quand même un gros risque en tant que vendeur. Vous sortez de chez le notaire, si votre bien vaut 100, vous touchez en moyenne 20 tout de suite. Vous comprenez bien que le reste, c'est un risque. Donc effectivement, pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'héritier, c'est pas forcément grave. En tout cas, il va se focaliser sur la rente qui va venir compléter les 20, et ça lui suffit. Pour une famille, c'est pas acceptable. Et c'est là que la nue propriété vient bouger les lignes et vient apporter beaucoup plus de sécurité sur le plan financier, hein, pour les deux parties d'ailleurs, pour le vendeur et pour l'acheteur, puisque le risque de perte en cas de décès est très limité. Et même chez Monetivia, on a été jusqu'à créer un contrat spécifique pour ce cas de figure où on va vraiment venir modifier le prix dans la durée, dans le futur, en fonction de combien de temps les personnes âgées vont rester chez elles. Donc, en modifiant le prix en fonction de la durée, on amène beaucoup de sécurité.
Les crédits sont de plus en plus difficiles à obtenir, hein, par les temps qui courent, avec la hausse des taux. Emprunter pour acheter une nue propriété, c'est la même problématique ?
Alors c'est quand même un investissement quand même qui se fait beaucoup cash, puisque je le disais, il y a cet effet de levier, donc pas forcément nécessairement besoin d'emprunter.
Dis donc, 65% cash, mais, c'est pas mal quand même.
Mais évidemment, vous avez de l'argent, je dirais gratuit comme hier, pourquoi se priver ? Et de ce point de vue-là, vous avez raison, la hausse des taux va venir probablement un petit peu compliquer ce type d'opération. Hein. En tout cas, les investisseurs, je dirais, réfléchissent plus qu'avant sur leur montage. Et on ne peut pas dire que la hausse des taux ne va pas avoir d'effet sur ce marché. C'est difficile à croire quand même.
On va probablement vers une baisse des taux, si ce n'est déjà le cas, hein, dans l'immobilier de façon générale. On peut faire des bonnes affaires aussi en nue propriété ?
Je dirais que l'idée de la nue propriété, vous avez compris, c'est on est vraiment très loin du marchand de biens ou de l'aller-retour rapide en achetant moins cher, en vendant tout de suite. On est plutôt sur une notion de bonne affaire assurée, puisque vous avez une rentabilité mécanique.
Donc c'est difficile de faire une bonne affaire sur la bonne affaire, c'est ça ?
Je dirais que c'est pas l'esprit, en fait. Ouais. L'esprit, c'est vraiment d'avoir un couple rendement-risque optimal. Vous avez beaucoup de sécurité, vous êtes sûr que vous allez gagner de l'argent. Si le marché en plus monte, tant mieux, ça va venir encore booster la rentabilité. Mais l'idée, c'est pas de faire une bonne affaire comme ça en 30 secondes. Mais structurellement, vous allez faire une bonne affaire puisque vous partez avec une marge d'avance. Donc,
mais ça prend le sens du marché.
Bien sûr, puisque.
Si le marché baisse, ça résiste mieux que le reste ou quoi ? Ou il n'y a pas.
Disons que.
Il n'y a pas de règles.
Je dirais que l'investisseur en e-propriété, il part pour une durée longue.
Ouais.
Donc, déjà, ça va un peu lisser les effets cycles. Alors oui, effectivement, on ne va pas se mentir, s'il y a une guerre, le marché, dans 20 ans, il sera moins important qu'aujourd'hui, probablement. Donc il n'y a pas de garantie de rentabilité assurée, jamais en économie. Hein. Mais on va dire qu'il y a tellement de marge de sécurité qu'on ne voit pas trop comment on peut perdre de l'argent. En tout cas, effectivement, nous, on monte aussi des opérations en s'attachant à être sur des zones où il y a de la tension foncière, où les marchés sont structurellement quand même assez sains. Mais vous avez raison, par définition, l'investisseur va prendre le risque immobilier du marché et donc il va s'exposer à la hausse et à la baisse du marché, qui viendra bonifier ou pas son investissement.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est tout le temps qui nous reste. Thomas Abinal, directeur général cofondateur de Monetivia. Puis je vous rappelle que si vous voulez revoir toutes les différentes séquences de cette émission, il y a le replay sur notre site bfmbusiness.com. Dans un très court instant, on retrouve nos traders pour le match des traders, Stéphane Soubouteille chez Technibourse et Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil, juste après la petite pause que voici, à tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
10h31 sur BFM Business. Comme promis, le match des traders. Jean-Louis Cussac chez Perceval Finance Conseil et Stéphane Soubouteille chez Technibourse.com. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous pour terminer cette semaine. Semaine
bonjour,
courte, mais semaine dense. avec les banques centrales, avec Apple hier soir, avec les chiffres de l'emploi américain tout à l'heure. On commence avec vous, Stéphane, plus 0,27 sur le CAC, 7360. C'est pas comme ça qu'on va terminer sur une note globalement positive à l'échelle de la semaine, hein. Ça reste négatif pour l'instant.
Ben, c'est vrai qu'on reste toujours dans cette logique de correction. Finalement, les investisseurs n'ont pas eu des faits de bonnes surprises avec tout ce qui a été annoncé cette semaine, même s'il reste encore les chiffres de l'emploi, le NFP à 14h30. On attend 180 000 créations d'emplois pour le mois d'avril. On avait bien débuté ce début de journée. Les futurs américains étaient bien orientés. On s'est presque rapproché des 7400 points. On s'est dit, tiens, peut-être que si on passe les 7400 points, on pourrait peut-être monter 40 ou 50 points plus haut. Et puis finalement, patatras, les futurs américains se sont retournés. Et puis nous, on a suivi. On a rechuté, hein. On est sur un niveau de support. Ce niveau de support, c'est autour des 7350-360. Si on passait dessous, là on remettrait peut-être un petit peu d'huile sur le feu et on reviendrait chercher la zone de point bas d'hier vers les 7320. Alors pour moi, j'identifie aussi un gros niveau de support entre 7280 et 7300 points. Donc j'imagine que au moins jusqu'à 14h30, on est peut-être capable de tenir au-dessus des 7350, mais attention quand même, si ça devait céder, on pourrait peut-être perdre encore 40 points. Est-ce qu'on aura la force de revenir sur les 7400 points ? Pour l'instant, c'est un petit peu mal parti. Mais pour se retrouver vraiment du bon côté de la barrière, parce qu'on a quand même une séquence baissière maintenant qui dure depuis quelques semaines, il faudrait repasser au-dessus des 7450 et surtout 7500 points. Alors c'est loin et c'est proche à la fois, hein, mais on n'a qu'un débours de 3% depuis le point haut du CAC 40, donc c'est une baisse qui est relativement contenue quand même. J'imagine pas non plus une forte baisse. Pour moi, le scénario du pire, c'est 7200 points, ça ferait 5% de baisse depuis le point haut. Voilà, mais on sent que le cœur y est un petit peu moins, les investisseurs se laissent un petit peu de temps pour revenir sur des valeurs qui commencent à baisser. Voilà, donc est-ce que le marché de l'emploi américain cet après-midi remettra un petit peu tout ça dans le sens de la marche? Ben, on verra bien, c'est pas certain non plus, parce que l'activité est en train quand même de ralentir un petit peu aux États-Unis. Alors est-ce que ça inquiète aussi un peu les investisseurs, même si voilà, la Banque Centrale Européenne va continuer à monter ses taux, il y a une pause du côté de la Fed, tout ça en fait ben, finalement était un peu attendu par les investisseurs, et voilà, c'est des non-événements, et voilà, l'arbre tombe un petit peu du côté où ça penche, et ça penche vers le bas pour l'instant.
Merci Stéphane. Jean-Louis Cussac, votre point de vue chez Perceval Finance Conseil. On est dans un marché baissier qui ne dit pas son nom. On baissote petit à petit, puis un beau jour, on va se rendre compte que, ah tiens, on a perdu 10, 15%.
Non.
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 Fondamentalement?
Absolument pas.
Ça reste haussier.
C'est un retracement.
D'accord.
Ça reste haussier sur le long terme, c'est un retracement. Ce retracement, si vous voulez, il faut le relativiser. On a perdu 3,17% au pire sur l'indice CAC 40, parce qu'il faut quand même tenir compte des dividendes. 3,17, c'est pas le bout du monde. En règle générale, quand vous avez une tendance de fond très haussière, comme on l'a eu, il faut entrer dans le marché sur des 3,5% de repli. Ce sont en général des occasions d'entrée. Donc il faut arrêter de psychoter là sur ce marché, il y a rien d'extraordinaire. Alors maintenant, c'est sûr que comme l'ampleur de la hausse était extraordinaire, au lieu d'avoir 3,5, on peut peut-être avoir un peu plus. Mais moi, si vous voulez, jusqu'à 7270, j'achète, ça c'est, je l'ai dit et redit, et en dessous, c'est une neutralité, si vous voulez, il faut vendre comme un sauvage. Donc voilà, il y a rien de dramatique. Là, regardez ce matin, on a démarré en force avec les bancaires. Et là, on a reperdu 0,6, Parce que les bancaires, en une heure de temps, ben, Crédit Agricole a perdu 1%, BNP a perdu 1%, voilà, c'est ciblé. Et il n'y a pas, comme hier, de valeurs qui se sont fait massacrer, de grosses valeurs, il n'y a pas. Ensuite, on a les taux souverains qui retracent un peu le mouvement d'hier. Le pétrole remonte, ça c'est aussi un indicateur, entre guillemets, de crainte de récession, vous voyez, là, ça remonte, on s'éloigne un peu de la récession. On a une sorte de retour au calme. On a évité le côté effet domino, c'est clair et net. Hier, on a fait un gap. Derrière, il n'y a pas eu vraiment de relais. Le soir, on l'a terminé comme on était à 9h du matin, à 9h15. Vous vous rendez compte, on n'a pas de quoi s'exciter. Là, on attend les stades de l'emploi. Évidemment, il faut rester prudent. Pour l'instant, si vous voulez, il y a le stress bancaire, il y a le shutdown, il y a la récession et... quand même, sur le fond, le scénario d'un soft landing est privilégié. Techniquement, il n'y a pas d'indication forte. On a une méfiance avec un volume très faible, 380 millions, 16 de volatilité implicite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je reste méfiant et j'interviens pas. Donc si vous voulez, les investisseurs sont tous hyper méfiants. Ce qui fait que le marché, si vous voulez, ne peut pas déclencher des effets dominos puissants comme il l'a fait à d'autres époques. Donc voilà, il faut rester calme. Il y a pas de quoi prendre d'initiative importante. C'est sûr qu'il y a évidemment des menaces. On voit également que l'eurodoll, hier, il a baissé avec les taux souverains qui ont vraiment chuté. Et puis là, comme ça retrace, il a remonté un peu. Il est autour d'un 10-30, là, un 10-27. Il y a rien d'extraordinaire. On est toujours acheteur sur opportunité de repli. Hier, on l'a eu. Tous les achats qu'on a pu faire ces derniers temps sur des replis, peu ou prou, on a réussi à avoir des portes de sortie. Je dis pas que... Parce qu'on ne s'attend pas à du directionnel à forte reprise. Hein. Donc, on fait des écarts. Sur le long terme, c'est sûr que on a une indication haussière qui est non infirmée. C'est-à-dire que, pour reprendre ce que vous avez dit dès le départ, Vincent, oui, bien sûr qu'on est en train de baisser sur du court terme, mais ça remet pas en cause l'idée d'acheter sur le fond. Après, l'idée d'acheter, on peut être plus ou moins agressif en fonction de sa position de fond. Moi, comme je suis assez léger, je peux me permettre en intraday de faire des petits trucs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de quoi passer aux grandes manœuvres. Donc on a un marché qui résiste très bien, comme on pouvait l'anticiper. Il n'envoie pas d'indication forte. Il se passe rien de particulier. New York la stabilise, en fait. Hein. Oui, il y a eu un petit repli de 0,2 à un moment donné sur le SPI par rapport à son plus haut. Enfin, vraiment rien. Par rapport à 3h du matin, il est sur le même niveau. Donc, c'est une attente plutôt, pour l'instant, on va dire, positive, même si le marché vient de reperdre 0,6, qu'il avait gagné bizarrement. Il le repère un peu bizarrement, mais rien d'extraordinaire sur ces marchés.
Rien d'extraordinaire, on ne psychote pas, nous dit Jean-Louis Cussac, qui reste acheteur dans ce marché. Merci Jean-Louis et merci Stéphane. Stéphane Soudutaille, on vous retrouve tout à l'heure dans un petit peu moins d'une heure. À tout à l'heure.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Et cette polémique, c'est comme tous les matins avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Ça commence à craquer du côté des banques,
des banques américaines.
Ça continue de craquer. Encore une banque américaine régionale au bord du gouffre, hein, depuis la chute de la californienne SVB mi-mars. Trois autres banques régionales sont tombées. Et puis une autre vacille, elle s'appelle PacWest.
Et c'est ça, Pacific Western Bank. Hier, elle perd la moitié de sa valeur.
Il y a trois jours, on ne la connaissait pas, celle-là.
Oui, elle est beaucoup plus vite que SVB. Ouais. Elle valait 27$ le titre fin février, moins de 3$ hier. Alors, on va voir aujourd'hui ce qui va se passer. Elle n'est pas totalement morte, mais enfin, elle n'est pas très très bien portante. La valeur boursière, c'est pas compliqué. Depuis le début de la crise des banques aux États-Unis, ça perd 90%.
Ah oui.
Elle est un peu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une info Bloomberg et que cette banque, Pacific Western Bank, donc PacWest, a confirmé l'info. L'info dit, on étudie toutes les options possibles depuis que ça chauffe un peu sur le secteur bancaire américain, y compris l'éventualité peut-être d'une vente. Et en même temps, ils indiquent qu'ils ont quand même subi, alors c'est pas une hémorragie, mais enfin une perte de dépôt de 17% depuis le début de l'année, au premier trimestre 2023. Alors comme toujours, quand vous avez un petit mouvement bancaire, c'est toujours un peu hystérique pour le secteur, donc il y a eu un peu du recul des banquiers aux États-Unis, notamment une autre, Western Alliance, qui est la banque de Phoenix dans l'Arizona, qui a quand même dû démentir une information du Wall Street Journal qui indiquait qu'elle aussi, elle s'était était mise en vente et qu'elle était en quête d'un acquéreur. Donc voilà, PacWest, qui est plus petite quand même que SVB, hein, 53e banque américaine, 41 milliards de dollars de bilan. SVB, c'était 210 milliards de dollars de bilan. Mais on en est effectivement à celle-là, plus 3, puisque Silvergate Bank, Signature Bank, First Republic Bank, maintenant PacWest, qui n'est pas totalement morte, mais enfin objectivement, là, ça sent le roussi. Et la première étant SVB, ça fait quand même 5 banques régionales qui sont en train d'exploser en vol. Hein.
Et pourquoi tant de banques américaines sont dans la tourmente?
C'est assez logique, et c'est en fait le seul et vraiment effet domino qu'on avait imaginé après SVB, c'est que vous êtes client en particulier ou entreprise d'une banque de taille moyenne, et quand vous êtes dans une banque qui ressemble à celle qui vient de faire faillite, ou qui vient d'aller vous inquiéter un peu, et donc il y a des mouvements de retraite dépôt, de gens qui quittent ces banques, qui passent sous les radars de la régulation, pour aller vers des gros établissements bien installés, bien rassurants. Les trois premiers aux États-Unis, ce serait Wells Fargo, Bank of America ou Citigroup. Et l'origine de l'histoire, c'est quand même Donald Trump 2017-2018. Parce qu'il a considérablement rehaussé le niveau de surveillance des banques aux États-Unis. Avant, au-delà de 5 milliards de dollars de bilan d'actifs, vous étiez dans les radars de la régulation. Eh ben, il a passé le seuil de 50. Il a passé le seuil de 50 à 250. Eh ben, toutes les banques là qui vont mal, elles sont toutes en dessous du radar, effectivement, en dessous des 250 milliards de dollars de bilan. Et alors, ce qui a déclenché vraiment... C'est pas ça, c'est pas Trump 2017-2018 qui déclenche ce que l'on vit aujourd'hui. Ce qui déclenche ça, c'est la conséquence des multiples hausses de taux par la Banque Centrale Américaine. Ouais. Elle monte ses taux, elle monte ses taux, elle monte ses taux. Vous avez un portefeuille d'actifs avec des titres qui perdent de la valeur au fur et à mesure que les taux montent. Tout d'un coup, vous êtes dans le spectre des banques qui inquiètent avec des clients qui ont envie de prendre la poudre d'escampette. Vous avez des demandes de retrait massifs. Il vous faut de la liquidité en urgence. Vous soldez une partie de votre bilan un peu trop rapidement qui, en plus, a perdu de la valeur. Donc, vous faites des paumes. Vous n'avez plus assez de liquidité pour répondre aux demandes de retrait des clients et servir les clients. Ben quand vous n'avez plus de liquidité, que vous êtes une banque, c'est la différence avec une entreprise non financière. Et ben, d'un instant à l'autre, quand il n'y a plus de liquidité, la banque est morte.
Bon, ma question, vous la voyez venir, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ici, en Europe? Y a-t-il un risque de contagion?
Objectivement, pour l'instant, non. D'abord, toutes nos banques sont des banques qui sont, dont les structures de bilan et les risques de Les risques liés aux hausses de taux sont quand même pris en compte. C'est un métier dans la banque. Dans certaines de ces banques américaines, il n'a pas été assuré, ce métier-là. Donc le risque de hausse de taux et l'impact sur le
bilan... On dit que les hausses de taux, finalement, sont bonnes pour les banques. Bon, jusqu'à un certain point.
Ouais, c'est toujours pareil. C'est toujours combien et à quelle vitesse.
Pas trop brutal non plus. Hein.
Voilà. Ouais. Mais bon, vous prenez nos banques en France, elles ont toutes fait des résultats d'enfer. Et elles ont un bilan, enfin, elles ont une année 2022 excellente. Après, objectivement, elles répondent toutes aux fortes exigences de liquidité et aussi de solvabilité qui ont été considérablement durcies après la crise de 2008, crise financière après Lehman et tutti quanti. Et puis, c'est vrai que depuis 2008, les États et les banques centrales ont montré leur capacité à agir avec une célérité incroyable en cas de problème de liquidité, ce qui n'était pas vraiment le cas en 2008. Enfin, en 2008, il faut se souvenir que à Washington, on prend la décision qu'on va laisser tomber une banque pour l'exemple. Alors certes, c'était une petite banque, Lehman Brothers, c'était même pas en plus une banque de dépôt. On s'est dit, allez, on a eu raison de donner l'exemple, on a vu la suite. Voilà. Après, ce qui est certain, c'est que l'on vit la plus importante remontée des taux d'intérêt depuis les années 80. On n'a jamais vécu ça. Et donc, automatiquement, il est évident qu'à partir de ce moment-là, quand on sort de toute une période d'argent gratuit et qu'on rentre dans une période d'argent plus cher, voire nettement plus cher, on va forcément faire apparaître toutes les failles du système, toutes les fragilités ici et là, tous les excès qui ont pu être engagés, tous ces gens qui ont pris des risques démesurés pour aller chercher du rendement quand les taux étaient à zéro et qu'on n'obtenait plus rien sur les produits traditionnels, qui en période de remontée des taux se retrouvent avec des prises de risques excessives et il n'y a pas de repas gratuit. Et c'est toujours la même histoire, c'est quand la marée se retire, on voit celui qui n'a pas de maillot, et bien on continue à vivre cette histoire. Et là, effectivement, compte tenu de la violence de la remontée des taux depuis même pas un an par la Réserve fédérale américaine, on doit être à 425 ou 450 points de base de remonter les taux, et ben voilà, quand vous avez pris des risques démesurés, quand l'argent ne valait rien, quand l'argent vaut plus cher, tout d'un coup, les risques que vous avez pris vous exposent à la figure.
Bon, Nicolas Dos.
Dire qu'on est sur un risque systémique et que l'ensemble du secteur bancaire va au tapis, c'est absolument pas d'actualité.
Ce sera le mot de la fin. Nicolas, merci beaucoup pour cette polémique. À la semaine prochaine.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
Avant de parler placement, de parler bourse, hein, cette bourse qui fait une pause en ce moment, bah on va justement regarder ce qu'elle fait en ce moment même, cette bourse. C'est un CAC 40 qui progresse d'un petit 0,32%, 7364. C'est pas à ce rythme-là hein, qu'on va enregistrer une semaine positive, semaine réduite à 4 séances. Et la séance de mardi a été tellement négative que, bon, voilà, c'est pas un 0,34% qui va changer la donne, mais on va peut-être avoir des surprises, de bonnes surprises cet après-midi avec les chiffres de l'emploi américain. En attendant, ce qui tire le CAC 40 à la hausse, ce sont des valeurs comme Renault, plus 2,3%, Publicis, plus 1,7%, ou encore Capgemini, plus 1,6%. Et à l'autre extrémité du classement, on voit des valeurs qui continuent de souffrir. Bah, par exemple, Airbus, qui publiait hier, ça avait été mal accueilli. Bah, ça continue aujourd'hui, moins 1% pour Airbus. On a aussi Engie qui abandonne un petit 0,8%, ou encore Essilor, moins 0,3%. Tout cela avec un euro à 1,10 en progression de 0,15%.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
BFM Patrimoine qui accueille à présent François Monnier et Marc Favard. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous êtes respectivement François, directeur de la rédaction d'Investir, et Marc, vous êtes directeur général de Premier Part AM. François, on commence avec vous. Hein, vous allez nous parler de cette bourse qui entre en mode pause. Qu'est-ce qui a appuyé sur le bouton pause là tout d'un coup? On volait de record en record, et puis là, on a même du mal à repasser les 7400 points. Falloir se montrer patient pour que ça reparte franchement à la hausse.
Absolument, il va falloir être un peu plus patient, sachant qu'on a quand même démarré l'année sur les chapeaux de roue, hein, on le rappelle jamais assez, on est quand même toujours sur une hausse de près de 13%, mais là, on voit que tout est en train de ralentir. D'abord, ça ralentit au niveau économique, hein. On voit les chiffres un peu partout qui montrent qu'il y a quand même des signes de ralentissement. On ne parle pas encore vraiment de récession, mais
on
regarde un petit peu les exportations allemandes au cours du dernier mois, eh bien, elles ont reculé deux fois plus que prévu. On a, quand on regarde les comptes des entreprises, bah, des baisses de volume. Hein. Chez Michelin, dans l'automobile, on a un recul de près de 6% des volumes. Dans la construction, chez Saint-Gobain, on a un recul de plus de 5%. Dans les matières premières, chez Emeris, on a un recul de 12%. Donc, on voit que, voilà, que la dynamique n'est pas encore tout à fait là. En tout cas, ça freine un peu partout. On voit aussi que le domaine, la circulation du crédit avec quelques faillites de banques régionales, pour l'instant rien d'inquiétant, mais la conséquence, c'est pas la faillite d'une banque régionale, c'est que la conséquence qui est importante, c'est le fait que le circuit du crédit ralentit. Les banques réfléchissent à deux fois avant de prêter parce qu'elles veulent pas se retrouver dans un bilan avec des créances douteuses. Résultat, ça ralentit aussi. Et puis, un signal qui est quand même important, c'est le reflux des cours du pétrole. On a quand même une OPEP Plus qui nous disait, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, les cours du pétrole, on va les garder bien orientés, parce que nous, on va réduire notre production. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est la demande qui fait le prix aujourd'hui, et la demande, eh bien, elle est moins là. Et résultat, on a des cours du pétrole qui refluent à 70, voire en dessous. Donc, on a plusieurs indicateurs qui montrent que finalement, ben, ça ralentit un petit peu partout. Donc, si ça ralentit un petit peu partout, ça va ralentir aussi en bourse.
Marc, c'est là que l'on voit que l'on entre dans le dur ralentissement de la conjoncture et peut-être éventuellement d'un début de récession en fin d'année.
Alors, ça c'est sûr que oui.
Sûr qu'on aura une récession ?
Depuis un mois et demi, les probabilités de ralentissement ou de récession sont plus fortes.
Ouais.
Et François l'a bien dit, les chiffres économiques qu'on a, les informations des sociétés, et puis même les informations de marché, la baisse du pétrole, la baisse du cuivre, le positionnement des courbes inversées, tout... Pour l'instant,
inversion de la courbe des taux, ça c'est clair.
Ça date depuis longtemps. Hein,
mais là, c'est de plus en plus net, hein, semble-t-il.
Et aussi même les anticipations que les taux américains vont baisser. Donc le mood aujourd'hui, il est clair. C'est ralentissement, probabilité de récession qui est évidemment plus fort. Et l'autre mood important, c'est la manière dont les investisseurs interprètent ces informations aussi de manière négative. Il y a une forme, pas de liquidation, mais vous voyez que depuis trois mois, on se sépare de tous les secteurs cycliques. Même quand une société publie très bien, c'est sell the news, hein, donc même si elle a des très bons résultats. Donc il y a une posture défensive des investisseurs avec une lecture économique qu'on doit avoir plus plus.
Il suffit pas de confirmer ses objectifs.
Il faut
les relever. Mais là,
après,
il y en a pas beaucoup.
C'est quoi les contre-mesures? Les contre-mesures. Donc, on attendait la reprise de la Chine. Donc, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le marché chinois ne carbure pas, lui, à la hausse. Mais quand même, on a quand même des informations plus favorables de mois en mois sur la Chine. Donc, c'était quelque chose qui était attendu. Côté américain, la consommation, les chiffres du chômage, ça tient. Il y a quand même une lecture assez différente entre la partie service et la partie consommation et la partie industrie. La partie industrie va plus mal. Et puis l'Europe, c'est quart un quart, quoi. Voilà. Mais c'est pas non plus encore aujourd'hui la catastrophe. La bonne nouvelle, vous l'avez entendu hier par les banquiers centraux, enfin la Fed et la BCE, c'est que c'est fini. Enfin les taux, on est en mode pause. Alors je dis pas quoi.
Pas la BCE.
Oui, mais
en tout cas, les prochaines
années, elle a quand même changé. Quand vous l'écoutez, elle a quand même changé son discours. Ouais. Rappelez-vous, il y a un mois ou deux mois de ce qu'il disait. Donc, on ne parle pas de pivoter, mais on est en mode pause. Les banquiers ont bien compris que la crise financière et les problèmes des banques américaines.
Crise financière.
Bah oui, vous avez quand même plein de banques américaines qui
sont en train de sauter. C'est une crise financière. Donc,
il y a un vrai sujet. Il y a de la
difficulté. La grande crise financière, mais.
Donc, côté banquiers centraux, on est à peu près sûr que la pause, elle est acquise, même si effectivement la BCE... Donc ça, c'est un élément, quand même, où on a un peu plus de certitude. Et puis, l'inflation reflue. Voilà. Donc, on a ce qu'on attendait, cette pause des taux, cette baisse de l'inflation. Mais entre-temps, le sujet le plus important maintenant, c'est le sujet économique et comment les entreprises vont réagir à tout ça. Et dans les publications, il y a quand même des très bonnes choses. Les publications sont les publications du passé, mais elles montrent la solidité, les marges qui sont très fortes. Donc elles peuvent subir des chocs. Et on va voir.
Pour en revenir à la bourse, François Monnier, en dehors de ces risques liés au ralentissement économique, est-ce que vous observez d'autres risques, comme des risques d'impatience?
L'impatience, c'est que tout le monde attend une baisse des taux de la Fed, et c'est pas encore garanti. On a encore eu, je rejoins ce que vient de dire Marc, c'est que il y a encore 15 jours, 3 semaines, on se disait, d'ici la fin de l'année, on aura une baisse des taux. Là, on a eu quand même la confirmation qu'on était plutôt dans une logique de pause. Donc là, il va falloir patienter dans une logique de pause parce que Jérôme Powell a reconnu qu'il naviguait à vue, que maintenant il n'y avait plus de projection sur l'évolution de la politique monétaire de la Banque Centrale Américaine, mais qu'ils allaient agir réunion après réunion avec, à chaque fois, on récupère des statistiques, de la data pour essayer de faire une stratégie. Donc c'est une stratégie vraiment très court-termiste, c'est d'un mois à l'autre, on verra ce qui se passe. Et donc oui, peut-être pause en juin, ou peut-être encore à nouveau une hausse de taux. On va voir comment ça va se passer. Et on a le sentiment quand même que le juge de paix, ça va être la Chine. C'est la Chine qui va montrer que, au sortir de cette crise sanitaire, est-ce que il y a vraiment une reprise économique forte qui permet de tout redynamiser. Donc on est vraiment dans un mode d'attentisme après, une petite euphorie en ce début d'année. Là, on ouvre une nouvelle page, et cette nouvelle page, ça s'appelle de la patience. Il va falloir patienter. Donc ça tombe bien parce qu'on a des distributions de dividendes qui arrivent, etc. Mais l'histoire est un peu plus compliquée parce qu'on attend vraiment des signaux concrets de redémarrage en Chine. Ce qu'on voit juste en Chine, c'est que on a des Chinois qui ont été frustrés de loisirs, de voyages, et ça, on a une certitude ça va redémarrer très très fort. Ça commence déjà à redémarrer fort.
On les voit beaucoup dans les rues de Paris là, s'ils sont complètement.
Oui, mais ça
revenus,
va être surtout à partir de cet été et pas qu'à Paris, dans l'ensemble du monde. En revanche, la reprise économique industrielle chinoise, pour l'instant, on la voit pas du tout. Donc il faut observer ça à la loupe.
Marc, on va avoir des comparables très faciles pour la Chine sur le deuxième trimestre, puisque l'année dernière, c'était le pire moment pour la Chine. Donc ça, de toute façon, mécaniquement, ça va s'améliorer, mais est-ce que ça va être suffisant? Et l'autre élément, je pense que on parle de on est dépendant des data économiques, mais par contre, les investisseurs ont quand même acté tout ça. Quand vous regardez le positionnement depuis 3 mois, c'est on ne veut acheter que les secteurs défensifs, on reparle d'investir évidemment sur les obligations, et on veut se délester d'un titre financier, d'un titre cyclique, des semi-conducteurs. Donc le marché, il a déjà frappé assez fort. Donc, et le sujet là, c'est la liquidation des meilleurs dossiers. Est-ce que si le marché corrige, est-ce que ce qui fait le CAC 40, le luxe par exemple, ou les grandes GAFA américaines, est-ce qu'elles vont souffler elles aussi?
Alors où va le CAC 40? Est-ce que c'est dans ces périodes justement de pause des banques centrales que tout peut arriver?
Donc là, La bonne nouvelle sur les marchés, c'est qu'il n'y a pas eu de bulle au niveau des valorisations. Donc on a un CAC 40.
Même sur le luxe.
Même sur le luxe, on a des niveaux de valorisation qui restent relativement faibles.
Combien le VMH là, elle 800,
25 fois. Ouais, mais ce qui compte.
Hermès, on approche des 2000.
Oui, mais ce qui compte, c'est les multiples de valorisation par rapport aux bénéfices. Ouais, ce qu'on a pu voir, c'est que le marché fait quand même son tri. Burberry, Kering, qui avaient annoncé des résultats qui étaient plutôt mitigés, ouais. Eh bien, ont été sanctionnés. En fait, le marché n'achète pas à l'aveugle. Le marché continue de faire son tri. En revanche, là où il y a un vrai débat sur la bourse, c'est les allocations d'actifs des particuliers, c'est qu'à un moment donné, aux États-Unis, vous avez Apple Bank qui vous propose maintenant un placement à plus de 4%.
Ouais,
4, quand vous avez déjà un Nasdaq qui quand a gagné 14-15%, est-ce que pour la fin de l'année, vous dites pas, je sécurise mon gain la bourse et je mets 4% dans Apple Bank, ou est-ce que je vais avoir peut-être un livret A à 4% cet été, et est-ce que je vends pas mon assurance vie en euros pour mettre sur la livret A.
En France, on peut avoir du 2% hein, sur les livrets à terme comme ça.
2%, ouais. C'est pas ça qui va stimuler les investisseurs.
Bon, ça sécurise.
On le voit que ceux qui ont fait des opérations, il y a le retour des cicaves monétaires. Donc, en fait, le marché, il y a une redistribution des cartes en ce moment.
Qu'est-ce qu'il faut mettre en portefeuille?
Là, on a toujours quand même envie d'être sur des défensives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un peu de télécom, c'est-à-dire avoir de la santé, avoir un peu de distribution alimentaire, avoir des concessions où vous dites là on n'est pas
c'est pas très excitant tout ça hein.
Non, mais vous êtes à l'abri du ralentissement économique.
Ouais.
Et puis vous avez quand même un petit ticket dans les valeurs de croissance en se disant la hausse de taux elle va peut-être être terminée. On a quand même aux États-Unis, il faut le redire, on est pour la dixième c'est la dixième hausse consécutive de hausse de taux. Donc on a eu quand même une tendance
BCE, la 7e,
incroyable.
Je crois.
Donc à un moment donné, on va souffler et cette respiration sur la hausse des taux, ce sera aussi bon pour la croissance. Maintenant, le pari, c'est est-ce qu'on remet du cyclique? Mais aujourd'hui, on n'a pas envie de se dire, allez, on met un petit peu de cyclique, alors qu'on voit quand même que tous les signaux montrent des ralentissements. Donc il faut vraiment être très très contrariant et très audacieux pour se dire, aujourd'hui, on prend du cycle, on prend de la matière première.
Marc, rapidement, ce qu'il faut avoir en portefeuille dans ces conditions.
Alors on pourrait
du défensif aussi.
Non, des sociétés quand même qui ont des carnets de commandes très très longs, par exemple.
Ouais.
Et Airbus, pour l'instant, il n'arrive pas.
Il n'arrive pas
à livrer ses avions, mais il a des carnets de commandes importants. Thales, c'est la même chose. Leonardo, c'est la même chose. Donc le secteur de la santé qui est quand même assez en retard par rapport à peut-être ces grosses GAFA américaines. Et puis se dire, ce qui est difficile aujourd'hui pour tout le monde, c'est que il y a de moins en moins de titres qui sont en hausse. Voilà. Donc on est sur une poignée de valeurs et il faut se méfier d'être trop investi sur cette poignée de valeurs qui pourra un jour peut-être un peu corriger.
Marc Favard, François Meunier, merci beaucoup. On se retrouve dans moins d'une heure pour répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs et nos auditeurs. Et justement, si vous-même, vous voulez revivre les différentes séquences de cette émission, il y a le replay BFM Business sur le site que vous connaissez bien de BFM Business. Bientôt 11h, on fait une petite pause et on se retrouve pour la deuxième heure de cette émission BFM Patrimoine. À tout de suite.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.